Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard.
Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron dans sa tribune sur l'Europe? Question que je vous pose. Vous intervenez au 39-21. Emmanuel Macron et l'Europe, comment nos voisins nous voient-ils? Nous échangeons jusqu'à 20h ce soir avec mes invités. Stéphane De Vries, correspondant néerlandais à Paris, spécialiste des questions européennes. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur
Merci.
Europe 1. Danilo Ceccarilli, correspondant italien en France de l'agence Nova et du Huffington Italia. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Georges Blum. C'est ainsi que l'on prononce.
Ouais.
Il y a eu un débat sur Blume, journaliste allemand vous-même. Vous dirigez le bureau à Paris de l'hebdomadaire Die Zeit, auteur de L'ami indésirable, la fin d'une histoire aux éditions Saint-Simon, le 14 mars prochain. Merci à vous trois d'être avec nous. Je vous présente Benjamin Muller.
Muller, c'est ça. Bonsoir,
Muller.
Mathieu.
Ça va, Benjamin?
Muller, on est d'accord. Ça va très bien, merci.
Comme chaque jour avec vous, Benjamin, à cette heure-ci, on voit comment les médias ont traité d'un sujet de l'actualité. Aujourd'hui, le sujet de l'actualité, c'est Bernard Tapie.
Bernard Tapie qui fait la une aujourd'hui, notamment des émissions médias. Jean-Marc Morandini sur CNews.
Nous sommes le lundi 4 mars à la une. Bernard Tapie qui a quitté ce matin le studio d'Europe 1 après seulement 2 minutes d'interview face à Audrey Crespon-Marat.
Alors qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Si vous n'avez rien suivi, je vous résume. Ce week-end, un article du journal Le Monde l'accuse d'avoir truqué des matchs de foot du temps de l'OM. France Info.
Son ancien attaché parlementaire, chauffeur et assistant personnel, Marc Frattani, raconte avoir participé une fois à un achat d'arbitre avant un match PSG-OM.
Alors là, on se dit, pas vous Bernard, pas ça, pas vous. Mais le pire, c'est que ce n'est pas tout.
Il y a un anesthésiant qui aurait été injecté dans des bouteilles d'eau avec des seringues ultra fines.
Alors là, effectivement, ça devient très grave comme accusation. France Bleu a demandé son avis à l'ancien joueur du PSG, Mathieu, l'ancien joueur, et aussi de Nancy, Eric Rabessandratana. Pas surpris, mais alors pas du tout.
J'ai vécu cette situation en étant, alors j'étais pas encore au Paris Saint-Germain, j'étais à Nancy. C'est vrai que quand on arrivait dans le vestiaire à Marseille, on vous disait, regardez bien les bouteilles, vérifiez qu'il n'y a pas un petit trou de genre de seringue pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui avait été injecté dans la bouteille fournie par Marseille.
Voilà, l'ancien joueur pas surpris donc, mais vous l'imaginez bien, Bernard Tapie, cet article du Monde, il va pas l'encadrer dans son salon.
Bernard Tapie ne se laisse pas faire. Il n'a pas apprécié l'interview d'un ancien de ses collaborateurs dans le journal Le Monde ce week-end.
Et quand Bernard Tapie n'est pas content, mieux vaut pas être devant lui. Donc, pour répondre à ses questions, à ce scandale, devinez chez qui Bernard Tapie s'est rendu ce matin.
Et Bernard Tapie est votre invité ce matin, Audrey Crespo-Marin.
Bonjour Bernard Tapie.
Bonjour madame.
Bonjour madame. C'est pour qui l'exclut? C'est pour nous, c'est pour Europe 1. Alors, si vous avez raté l'interview, voici les explications de Bernard.
Marc Frattani, l'un de vos proches pendant vos années OM, affirme que vous avez notamment acheté un arbitre il y a 10 ans.
Non,
pourtant...
non, il dit qu'il l'a acheté lui. N'en rajoutez pas, il a dit qu'il avait acheté un arbitre.
À votre demande.
Ça va de soi.
Voilà Bernard Tapie qui fait du Bernard Tapie. Hommage quand même à Audrey Crespo-Marat qui va relancer le monsieur quand même.
Ce même Frattani, il avait pourtant publié un livre
je
dans lequel
pas
il affirmait
allait...
il y a 10 ans...
Non, mais attendez, si on passe la matinée pour parler de ce que Frattani a dit, je me lève et je vous laisse toute seule. On est d'accord?
Alors, je m'adresse à nos auditeurs. Vous auriez fait quoi, vous, à la place d'Audrey Crespo-Marat? Vous auriez tenté une dernière question? Vous êtes sûr? Voilà ce que ça aurait donné.
Bernard Tapie.
Je ne vous répondrai pas.
Frattani.
Et vous ne serez pas la première.
Non, mais vous avez...
Allez, au revoir, madame.
Mais non, mais non. Bernard Tapie...
Allez,
Bernard Tapie...
Vous plaît,
mais non, vous mais vous revoir, savez... Madame. Bernard Tapie, c'est ridicule, franchement.
Voilà.
Bernard Tapie.
Bernard, non, c'est pas grave, il est vraiment parti. Il se trouve que Tapie a donné
raison,
une autre...
C'est ridicule.
c'est absolument, c'est bien le mot. Il se trouve que Bernard Tapie a donné une autre interview ce week-end, c'était chez BFM TV. Et là-bas, bonne nouvelle, il est resté jusqu'au bout. Du coup, il a eu le temps de parler d'un sujet qui va vous plaire, Mathieu. Les chances de voir Paris, le PSG, gagner la Ligue des Champions cette année.
Et si Paris gagne cette année, parce que je pense vraiment qu'ils sont armés cette année pour la gagner. Je pense qu'ils risquent, ils ont une grande chance de gagner.
Ah, Mathieu, un Marseillais qui dit ça, ça fait plaisir, non? Allez, pour vous, j'en mets plus.
Mais vous allez voir, tout Paris va descendre, y compris ceux qui font pas de foot.
Et vous descendrez aussi, parce que vous vous dites que le PSG, dans ces moments-là, ça devient votre équipe aussi.
Compte. C'est des choses fabuleuses, c'est des images, mais qui donnent tellement un sens à notre existence.
Mais oui, minimum, voilà, c'est magnifique. Du coup, trucage, pas trucage, il y a 20 ans, seringue ou pas, on s'en fout, allez Paris après-demain, n'est-ce pas Audrey?
Bernard Tapie, c'est ridicule, franchement.
Mais non, il est parti, c'est pas grave, on vous dit que ce qui compte, c'est le match dans 2 jours,
Merci.
Parce qu'il s'est passé
exactement,
il y a 20 ans.
Exactement, et après on n'accepte pas de répondre à des interviews quand on refuse les questions. Quoi.
C'est pas faux.
Ou alors on l'a fait exprès.
Ah, merci, ça, c'est pas impossible.
Merci
ce
Bernard
que
Tapie, j'allais dire. Merci Benjamin Muller. Il est 19h29. Notre débat sur l'Europe, l'Union Européenne et cette tribune d'Emmanuel Macron. Vous intervenez au 39-21. Nous revenons dans quelques secondes.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et vos invités ce soir, Mathieu Stéphane De Vries, correspondant néerlandais à Paris, spécialiste des questions européennes. Le correspondant italien en France de l'agence Nova et du Huffington Italia, Danilo Ceccarelli. Et Georges Blum, journaliste allemand. Il dirige le bureau de l'hebdomadaire Die Zeit à Paris, auteur de L'ami indésirable, la fin d'une histoire qui paraîtra aux éditions Saint-Simon le 14 mars.
Emmanuel Macron qui prend la parole par écrit, qui s'adresse aux 28 membres de l'Union européenne. J'inclus la France, j'inclus le Royaume-Uni aussi, même si on guette le Brexit. D'abord, Stéphane De Vries, Danilo Ceccarelli, Georges Blum, vous attendiez une prise de parole d'Emmanuel Macron en Europe ?
Mais oui, c'est le grand débat européen qui va commencer. Il est déjà très bien dans le grand débat national. Alors, il faut qu'il vienne la prochaine fois en Allemagne nous dire ces choses-là. Je crois que c'est vraiment important. Les débats européens dans les différents pays sont tellement décalés l'un de l'autre. C'est ce qu'il fait est vraiment nouveau. Il lance un débat avec ses paroles à lui, c'est bon, dans tous les pays, mais au moins on peut répondre après en Allemagne. On a le devoir de répondre. Et ça, ce débat public européen n'existe pas au Parlement, on n'entend pas. On n'entend pas si Merkel et Macron se fâchent ou non. Ils ont beaucoup de raisons de se fâcher, on le sait un peu, mais il faut le faire sur la place publique et c'est un effort dans cette direction.
Stéphane De Vries ?
Moi, je pense qu'aucun des 500 millions d'Européens attend plus que quoi que ce soit du président français. Donc cette lettre, elle est bien sympa, mais je pense qu'elle ne sera pas lue par beaucoup de monde.
Ça va être autrement en Allemagne. En Allemagne, il n'y en a qu'une référence maintenant. C'est Macron, la France, la Pologne, non, l'Angleterre, non, l'Italie, non. Il sait bien.
Vous avez besoin
va.
De la France en Allemagne.
Mais bien sûr.
Ah, c'est intéressant, c'est important aussi dans le
regard. Mais bien sûr,
regard.
Plus que jamais. Plus. Et Macron est le seul voix crédible auprès du mainstream allemand, quand même, en Europe aujourd'hui.
Danilo Ceccarelli, vous qui représentez la presse italienne ce soir.
Oui, vous savez, hier soir, nous, on a déjà une avant-première.
Oui, c'est vrai.
Avec l'interview de président Macron qui a été transmise à la RAI. Et c'était très intéressant. Ça a été d'un côté une sorte de déclaration d'amour du président Macron vers l'Italie. Il a rappelé quand il est allé en vacances en Italie quand il était très jeune. Mais de l'autre côté, il a confirmé sa, je pourrais dire, bataille, entre guillemets, contre le souverainisme. Donc, c'était un message pour le gouvernement italien. Donc on attend de voir les contenus de sa tribune pour voir un peu les détails de cette
Il appelle clairement
bataille.
À contrer les gouvernements d'Europe et les partis politiques qui sont un peu dans le même sens de ceux qui gouvernent en Italie.
Oui, mais vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis décembre, janvier, maintenant les relations se sont apaisées. Notamment hier soir, le président Macron a annoncé que son homologue italien, le président Mattarella, sera le 2 mai en France pour l'exposition sur Léonard da Vinci. Mais ça reste au fond, il reste des tensions. Donc,
oui, on peut rappeler aussi que le président italien, il a un rôle plutôt symbolique.
Tout à fait.
Il ne gouverne pas.
Tout à fait. Mais d'un autre côté, le président Macron n'a jamais répondu directement aux attaques des deux vice-présidents du Conseil. Donc je parle de Matteo Salvini, le leader de la Ligue, et Luigi Di Maio, le leader du mouvement 5 étoiles. Il a toujours dit, moi je parle, que je réponds qu'au chef d'État ou au chef de gouvernement. Donc le président Mattarella et le président Giuseppe Conte. Donc c'est très symbolique cette invitation, c'est très symbolique cette rencontre, je trouve.
Alors je citais quelques éléments il y a une vingtaine de minutes, les premiers éléments sur ce que va écrire Emmanuel Macron, ce qu'il a déjà écrit, plus de protection, on va parler de Schengen, plus de liberté, plus de progrès, les grands axes. Il y a aussi la promesse de lancer une conférence pour l'Europe. Ce grand débat national que nous avons en France, déjà, comment est-ce que vous le racontez dans vos pays respectifs ?
Aucun intérêt. Voilà.
Aucun intérêt,
non,
le grand débat national.
Pas,
vous vous rendez compte, ça fait un mois et demi qu'on ne parle que de ça.
Bah oui, c'est exactement ça le problème. On ne fait que parler dans ce pays. Et en fait, ça s'appelle un grand débat, mais ça aurait dû s'appeler un grand dialogue. Et c'est exactement le problème. C'est un homme, un roi ici, tout seul. C'est le centralisme qui est le vrai problème en Europe. Parce qu'on pense tous que Emmanuel Macron, c'est celui qui va sauver l'Europe. Mais il va faire exactement le contraire. Quand on voit l'article qui va publier demain, en tout cas les grandes lignes qu'on
éléments,
voit ici,
ouais.
C'est, pour moi, c'est un article anti-européen. Moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi on voit en Emmanuel Macron un Européen. Donc, le grand débat, C'est très sympa, c'est sympa pour remplir les chaînes d'info 24 heures sur 24, mais ça ne sert strictement à rien. Et il veut refaire la même chose en Europe. En Europe, on n'entend pas
c'est
ça.
C'est parce que le grand débat de Macron, ça passe pas à la télé, chez vous, à RTL, autre. C'est un niveau un peu plus haut avec cette heure de débat. Je veux pas dire, le grand débat qu'il a lancé, c'est quand même une bonne exemple pour l'Europe, de vraiment de se mettre dans l'arène du palais
public. Toutes les capitales européennes, dans toutes les grandes villes européennes.
Mais oui, il faut le faire. Tout à fait comme un jour Clinton a redémarré les débats town hall aux États-Unis.
Non, mais c'est un vraiment, nouveau c'est format on a deux.
Complexe qui est au niveau de l'Europe. et toute cette, je veux dire, cette histoire de la monarchie française, c'est du bullshit. Je veux dire, il n'y a pas de monarchie en France, vous êtes une démocratie comme les nôtres. Je veux dire, Macron n'est pas un roi, c'est un animateur peut-être, pas plus que ça, mais il le fait bien. Et on a tellement besoin aussi en Allemagne de ce débat européen pour qu'on sache qu'est-ce que c'est être citoyen européen.
19h37, le débat est plus que lancé. Vous restez bien sur Europe 1. On a bien quelques visions différentes de ce qui se passe en ce moment en France. Sur le grand débat, je n'ai pas encore entendu Danilo Ceccarelli. Je lui donne la parole dans quelques secondes. Restez bien sur Europe 1.
19h40, vous écoutez Mathieu Bélière sur Europe 1 avec vos invités ce soir, le correspondant néerlandais à Paris, Stéphane De Vries, spécialiste des questions européennes, le journaliste allemand George Blume, il dirige le bureau de l'hebdomadaire Die Zeit à Paris, et Danilo Ceccarelli, correspondant italien en France, de l'agence Nova et du Huffington Italia.
D'après ce qu'on sait, la volonté d'Emmanuel Macron, c'est de s'adresser directement à tous les Européens, pas forcément à ses homologues, mais à tous les Européens. Quel regard ont porté les Italiens, Danilo Ceccarelli, sur ce grand débat national qui divise nos confrères allemands et néerlandais?
Franchement, on n'a pas trop parlé de ces grands débats nationaux. Bon, on en a parlé un petit peu. On
moins
a expliqué
que les gilets jaunes.
Oui, les gilets jaunes, bien sûr, ont occupé l'espace médiatique, surtout après tout ce qui s'est passé avec le mouvement 5 étoiles et les vice-présidents du conseil, Luigi Di Maio. Après, je pense que ça a été un astuce très malin de la part du président Macron d'aller à la rencontre des Français quelques mois avant les élections européennes. Et je ne suis pas sûr que ça pourrait marcher dans d'autres pays européens. Je pense notamment à l'Italie. Je vois ça, on est pas trop habitué. Oui, on aime beaucoup parler en Italie, ça, c'est sans doute, mais je ne sais pas si une stratégie pareille pourrait marcher en Italie. Donc après, sur la conception européenne de Macron, si on débat si lui il est européen ou pas européen, lui il a sa ligne, et surtout il a bien marqué il a tracé sa ligne de démarcation par rapport à ses adversaires.
Il a mis en place et mis en scène d'une certaine manière cette rupture, cette opposition entre ce qu'on appelle d'un côté les progressistes, de l'autre côté les nationalistes. On sait que la réalité est toujours plus complexe, mais est-ce que Emmanuel Macron, déjà en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, il est perçu vraiment comme un progressiste pro-européen?
Pas George progressiste Blum. Sur le plan social. On a l'impression quand même qu'il a abandonné ses positions sociales sur l'Europe. Faisait partie de son discours de demander surtout à l'Allemagne qu'il y ait une politique européenne sur le plan social. Ça, dans cette déclaration de demain, il n'y en a presque rien là-dessus. Dans le discours de la Sorbonne, il n'y en a presque plus rien. Il y a ce petit budget
européen. Et de gauche et de droite, il manque le en même temps.
Il est pro-européen. Européen, mais libéral, et je crois qu'il sait bien son combat le plus difficile qu'il a abandonné aujourd'hui, c'est demander à l'Allemagne et à l'Hollande, les pays avec les excédents commerciaux très grands, de s'investir dans le social en Europe. C'est ce qu'on n'est pas en train de faire en Allemagne ni en Hollande. Et c'est ça, c'est le débat qu'il évite. C'est ce grand débat qu'il doit lancer dans l'Europe.
Stéphane De Vries?
Aux Pays-Bas, au début, les gens étaient très contents de l'élection de Macron il y a 2 ans, parce qu'on pensait qu'enfin la France allait devenir moderne. très vite, on a vu que c'était encore un président comme un autre, encore quelqu'un qui était issu du système, qui se présentait comme un peu différent, mais finalement, c'était juste un énarque avec tous les défauts que tous les énarques ont, c'est-à-dire aucune vision, aucun courage et aucune idée nouvelle.
Ne pas tendre avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes représentatif de ce que pensent les Néerlandais qui s'intéressent à la politique française?
Je m'affiche pas en tant que Néerlandais, je suis européen. Donc mon regard est surtout, avant tout, européen. Donc je parle de l'intérêt d'un Européen aussi, parce que moi, personnellement, j'aurais voulu...
Un Européen qui est bien implanté en Hollande ou Belgique,
non,
je ne sais
pas. Tout, ça fait 20 ans que
c'est l'Europe qui profite le plus des marchés libres.
On vient
et
se rencontrer. Stéphane
De Vries, vit en France depuis 20 ans.
Voilà. Non, mais donc, mon avis personnel est...
Peut-être que c'est un peu trop 20 ans.
Non, mais en fait, moi, j'ai rencontré Emmanuel Macron avant l'élection. Je l'ai interviewé longuement et j'étais, à ce moment-là, absolument charmé par le personnage. On a parlé beaucoup de l'Europe. Et moi, je pensais vraiment, je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes un fédéraliste? Que moi-même, je suis. Et il a dit, bah, écoutez, je ne peux pas vraiment employer ce mot parce que le mot est un peu chargé, mais en réalité, oui. Et donc, je suis sorti de cette interview, c'était 6 mois avant son élection, je pense, ravi, parce que moi aussi, je pensais enfin avoir affaire à quelqu'un qui était moderne, qui pensait peut-être un peu comme moi, comme beaucoup d'Européens, des jeunes Européens. Et finalement, là, 2 ans plus tard, je suis vraiment très déçu parce que, je le disais tout à l'heure, sa lettre de demain, son article, ça n'a rien d'européen. Il parle même d'une remise à plat de l'espace Schengen. Peut-être que ça ne parle pas vraiment aux auditeurs, mais en fait, ça veut dire vraiment faire exploser l'Union européenne. Parce que l'espace Schengen, c'est l'un des 4 piliers fondamentaux.
C'est un recul.
C'est un recul absolu.
Alors justement, à partir de cette question-là, je vais juste demander à Danilo Ceccarelli si en Italie, on a cette même mise en scène progressiste nationaliste, si on voit Emmanuel Macron comme...
Oui, surtout en ce moment.
Le héros, le champion, on va dire, de l'Europe face à des nationalistes ou...
Moi, je dirais plutôt les représentants de l'Europe, sans exagération. Mais en Italie, on a fait tout de suite la comparaison avec Matteo Renzi, quand le président Macron était élu un jeune qui voulait bouleverser les scénarios politiques nationaux et européens.
Qui est sorti sur un référendum.
Qui est sorti. Donc,
petite parenthèse.
Tout à fait. Mais après, vu les tensions qu'il y a eu entre Paris et Rome, les regards sous Macron ont un peu changé. Il a pris un aspect un peu plus conservateur, je pourrais dire, surtout sur la question des migrants, des immigrations, avec les frontières, avec la réforme sur les droits d'asile. Donc, après un premier moment, l'image de président Macron a changé en Italie, mais je pense que ça a changé un peu partout.
Il est 19h45. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1, le débat qui continue jusqu'à 20h. On va prendre Romain, qui est en attente au 39-21. Il nous appelle de Limoges, étudiant en affaires européennes. Tiens, on le prend juste après la pub.
Vous écoutez Mathieu Bellière sur Europe 1 avec vos invités ce soir, le correspondant néerlandais à Paris, Stéphane De Vries, spécialiste des questions européennes, le correspondant italien en France de l'agence Nova et du Huffington Italia, Danilo Ceccarelli, et le journaliste allemand Georges Blume. Il dirige le bureau de l'hebdomadaire Die Zeit à Paris. 39-21 pour réagir.
Romain est avec nous en ligne depuis la Haute-Vienne. Vous connaissez Limoges? Tiens, je vais poser la question. Non.
La plus belle gare de France.
C'est vrai? Vous trouvez? Non, c'est vrai que c'est beau, la gare de Limoges. Bonsoir, Romain.
Bonsoir, Mathieu. Voilà qui me fait plaisir.
Bon, écoutez, Stéphane De Vries semble connaître. En tout cas. J'aurais dit Metz, moi. J'aime beaucoup la gare de Metz.
C'est pas mal. Ouais.
Romain, c'est à vous.
Oui, bah écoutez, beaucoup de choses à dire parce que, en réalité, le débat que le président Macron fait mine d'instituer est déjà faussé puisqu'il enferme le débat entre les soi-disant progressistes et les réactionnaires. Bon, en réalité, je crois qu'il faut lire Régis Debray. Régis Debray dit que l'Union européenne, l'européisme, c'est un ersatz de messianisme auquel se rallient les orphelins d'attentes déçues. C'est ça. Aujourd'hui, on croit pouvoir faire l'Europe sur le dos des nations et sur le dos des peuples. Mais on constate que l'Union européenne n'est qu'une idée. Et c'est ce que disait d'ailleurs Philippe Séguin en 92. C'est un concept qui est loin de la nation charnelle. Ce qu'il faut, à mon avis, ce qui est efficace, c'est la coopération des nations. Il y a une Europe, c'est une réalité, réalité culturelle et civilisationnelle, mais aujourd'hui, on a fait une Europe contre les peuples, c'est le fonctionnalisme. Et en réalité, l'Union européenne, aujourd'hui, et c'est ce sur quoi je voulais insister, elle n'est pas aimée des peuples parce qu'elle est la conjonction, à mon avis, de deux délires mondialistes. Il y a d'un côté le sans-frontiérisme, c'est Schengen, c'est l'idée que finalement la nation et la frontière s'est périmée, et c'est le libéralisme à outrance, où on considère que, bien de toute façon, l'État est nécessairement néfaste et qu'il faut s'en débarrasser. Et quand vous disiez, l'un de vos intervenants disait que finalement le président Macron est fédéraliste, bien sûr qu'il est fédéraliste. Et je pense que c'est un grand problème parce qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté sans souveraineté.
Alors Romain, je pense que vous n'étiez d'accord avec Stéphane De Vries que sur la gare de Limoges.
Absolument, mais c'est déjà l'essentiel.
Non, mais oui, enfin, je pense que l'étudiant là, en l'occurrence, c'est un électeur du Front National, parce que c'est exactement la rhétorique de Marine Le Pen.
Pas du tout. N'enfermez pas le débat, monsieur. Il n'y a pas le Front National.
Il a cité Régis Debray. Et Régis Debray a quand même sorti un beau formule qui est le néo-protestantisme en Europe.
Romain, est-ce qu'on peut vous situer politiquement ou pas?
Oui, je suis gaulliste, mais justement, je voudrais juste réagir à ce qu'elle a dit, parce que justement, on est exactement dans l'épure de ce que je montrais. On est en train d'enfermer, mais on fait un peu comme on faisait en Union soviétique, hein. C'est-à-dire que dès qu'on ne prêche pas la bonne parole européenne, on est facho. C'est extraordinaire quand même.
C'était pas ce que j'ai dit.
Il y a quelque chose d'autre entre Madame Le Pen et Monsieur Macron.
Que le Front National, au Rassemblement National.
Et pour vous, vous avez dit gaulliste et d'extrême droite.
Oui, ça semble être. Ouais, c'est très proche. En fait, le véritable problème pour moi, personnellement, c'est mon opinion, ce sont les États-nations. Et c'est justement ce dont Emmanuel Macron ne sera jamais capable de s'en sortir parce qu'il est français. Donc, il pense comme un nationaliste au sens de l'idéologie des nations, parce que c'est une invention française. Et c'est pour ça que ça ne marchera jamais, l'Europe, parce que c'est justement un amalgame des États-nations. Et le jour où on décide de se débarrasser des États-nations, qui est pour moi la pire invention de l'histoire humaine, dans ce cas-là, on peut commencer à bâtir l'Europe. Mais aujourd'hui, on est confronté à... déjà, on parle des élections européennes, mais ce ne sont pas des élections européennes. Il s'agit de 27, peut-être 28, élections régionales, avec 28 campagnes nationales. Et on ne parle pas du tout, les voisins ne se parlent pas, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe chez les voisins.
Il y a quelques exceptions, évidemment. Mais bon,
de manière générale, l'Europe...
voter ou pas voter d'ailleurs, souvent s'abstenir sur des critères nationaux.
Tout à fait. Et donc l'Europe n'existe pas, malheureusement.
Ce qui pose la question...
Non, mais c'est là où vous vous trompez aussi, au Régis Debray se trompe. Vous allez voir toutes les faillites et fossés en Europe. Oui, et les concurrences anciennes, tout ça, ça existe depuis des centaines d'années, mais aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la pression de la Chine, de la Russie et des États-Unis sur l'Europe, ça fait une Europe. Et c'est ça ce que Macron a compris quand même. Il sait que c'est l'ennemi extérieur qui fait l'ami à l'intérieur.
Il y a plein de contre-exemples à vous opposer. Il y a Alstom-Siemens, il y a Air France-KLM. Il y a aussi de grosses difficultés...
Tout à fait, mais c'est les conversions sous la pression de l'extérieur qui se sont en train de fermer. Et ça n'a pas marché cette fois. Dans 5 ans, en 10 ans, je suis sûr qu'on aura cette entreprise Siemens, Alstom, parce que c'est inévitable. Sinon, les Chinois ont tout le marché du monde.
Danilo Ceccarelli.
Je pense que l'Europe, la conception de président Macron, mais pas seulement de président Macron, je dirais des européistes, on pourrait la considérer comme un parcours. On ne peut pas franchir les concepts d'État-nation d'un jour à l'autre. Et il y a beaucoup de difficultés. Alors, on l'a vu avec Siemens, Alstom, mais on essaye de régler.
Alors qu'on ne puisse pas le faire du jour au lendemain, c'est une chose, et ce n'est pas forcément faux. Est-ce que ça peut venir de la France ?
Moi, je pense que non. Parce que la France, elle a inventé la notion de la nation. Et c'est tellement imprégné dans les cerveaux des Français de penser en... Le cadre, c'est la nation. Et j'ai jamais rencontré les Français qui
c'était
voient...
pas les gilets jaunes n'étaient pas des nationalistes.
Stéphane De Vries,
je ne parle pas de nationalisme dans le sens où l'on entend souvent. Mais vraiment, l'idéologie, la science, si vous voulez, ou la théorie de la nation... C'est une théorie française et qui a gagné au 19e siècle. Et c'est pour moi un modèle complètement dépassé. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui avec la montée des populistes, les nationalistes, on peut coller plein d'étiquettes qu'on veut, pour moi, sont les derniers soubresauts du nationalisme. Donc le destin ou la suite logique de notre histoire, ça serait un monde sans nation. Je sais que j'ai l'impression d'être à voix bue ou peut-être être très utopique, mais je pense sincèrement qu'on ne peut plus continuer dans le cadre des États-nations parce que ça nous mène nulle part.
Georges Blum.
Oui, ça peut venir encore de la France parce qu'on a vu, vous êtes capable de sortir dans la rue avec vos revendications spontanées, sans crainte de faire du mal à personne. Je veux dire, les Gilets jaunes, c'était un bon effort de remettre les questions sociales dans le débat. Nous, en Allemagne, on n'ose pas faire ça. On n'ose pas aller dans la rue et dire nos revendications. Et c'est ça qu'il faut pour la démocratie. Alors, il faut cet impulse un peu... révolutionnaire, en guillemets, de la France pour mener les débats en Europe.
Danilo Ceccarelli.
Bon, c'est vrai qu'en France, les concepts des nations, l'institution, c'est très très fort.
Et si je pose cette question, c'est aussi parce qu'on a cette image souvent, à juste ou titre ou pas, d'arrogance.
Bon, ça, je ne vais pas tomber dans les stéréotypes comme on a, par exemple, quand à l'étranger on raconte les mouvements des Gilets jaunes, on fait toujours des comparaisons avec la Révolution française. C'est très facile de tomber dans des stéréotypes, dans des schémas un peu faciles. Et c'est vrai qu'en France, comme je disais, les concepts des nations sont très forts, mais franchement, je ne vois pas d'autres pays actuellement qui pourraient prendre en main les rênes de l'Europe. Je vois mal l'Italie ou l'Espagne à traîner un peu l'Europe vers un parcours européiste. Donc,
on verra si Emmanuel Macron n'est pas trop affaibli aussi. Ce sera quand même une des questions.
Ça, c'est une autre question parce qu'il a perdu beaucoup de crédibilité suite aux Gilets jaunes. Comment il a réagi chez les partenaires européens? Il n'a plus beaucoup de crédit. Hein,
sur sa réaction sur le grand débat?
Oui, surtout signer un chèque de 11 milliards d'euros qui fait en sorte que la France, encore une fois, ne respecterait pas les règles européennes.
Et on perd en crédibilité, ce qui était une force d'Emmanuel Macron. Merci à vous trois. Merci beaucoup. On est au bout du temps. Je suis infiniment désolé. Stéphane De Vries, correspondant néerlandais à Paris, spécialiste des questions européennes. Danilo Ceccarelli, correspondant italien en France de l'agence Nova et du Huffington Italia. Et Georges Blum, journaliste allemand. Je rappelle que vous publiez L'ami indésirable, la fin d'une histoire aux éditions Saint-Simon le 14 mars prochain. Merci à vous trois. Je pense qu'on refera ça. Émilie Mazeuillet, bonsoir.
Salut Mathieu Béliard.
Comment ça va?
Ça va bien et vous?
Très bien, qu'est-ce qu'on écoute?
Ah, ce soir, je vous emmène à l'église, mais pas pour aller à la messe. Laurent Voulzy, qui fait une tournée en ce moment des églises et des cathédrales en France et en Belgique. Et il vient nous en parler ce soir en direct dans l'émission.
C'est pour la réverb.
Oui, c'est ça.
Moi, ou je fais ça dans la salle de bain.
Je sais pas, je vais lui demander.
Est-ce que c'est pour la réverb ou pour le petit Jésus? Merci beaucoup. Très bonne première question, Émilie Mazeuillet.
Oui, voilà.
Je retiens. Bonne soirée en musique jusqu'à 22h sur Europe 1. Je remercie au passage Romain, pardon, qui était en ligne avec nous tout à l'heure. À demain, Ombline.
À demain, Mathieu Béliard.